le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Neuvième numéro du temps d'une chanson. Il est temps de nous rafraîchir la mémoire en écoutant les belles chansons qui ont marqué l'histoire contemporaine et de découvrir par la même occasion les auteurs souvent méconnus qui ont écrit les plus belles pages de notre vie musicale.
Rouge Père Épaisse.
Juin 1920. À l'initiative de la CGT, la Fédération des cheminots tente en vain de déclencher une grève générale. Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité, est béatifiée par le pape Benoît XV. Agnès Souret est élue la plus belle femme de France, selon le magazine L'Illustration, en mai 1920. Le général de Castelnau, à la tête de la délégation française, se déplace au Vatican pour la canonisation de Jeanne d'Arc. Le 16 mai 1920, l'Église catholique canonise Jeanne d'Arc. Le 23 mai 1920, le président Paul Deschanel chute d'un train.
Au moment où la France va pouvoir étendre son autorité politique sur le nord-ouest de l'Afrique, à l'exception des régions réservées à l'Espagne, nous pouvons jeter nos regards en arrière et contempler les 80 ans de lutte que nos pères ont soutenus dans cette partie de l'Afrique. Comment tout cœur français pourrait-il songer sans émotion à cette matinée du mois de juin 1830 où, pour la première fois, les troupes françaises débarquèrent à la pointe de Sidi Ferru pour, de là, s'élancer sur le nid de pirates qui, depuis trois siècles, fatiguaient l'Europe et pour planter le drapeau de la France sur la Kasbah d'Alger. Puis, l'œuvre que la Restauration avait commencée, le gouvernement de Juillet la continua par la vaillance des Pujols, des Lamoricières, des Aumales. Sous le Second Empire, Randon réduit la Grande Kabylie et les trois couleurs flottent aux cimes du Turbura. Enfin, la Troisième République, grâce à la clairvoyance et au courage de Jules Ferry, donne à la France unie et diverse. Et voici qu'enfin elle couronne l'édifice, en reconstituant, non pour elle seulement, mais pour tous les peuples, pour toute l'Europe, pour l'humanité, l'œuvre que seule, au cours des siècles, avait su fonder la puissance romaine. Ah, la politique française n'a pas toujours été aussi persévérante. Trop souvent, hélas, et en Afrique même, qu'elle s'est laissée ravir le fruit de ses efforts. Cette fois, du moins, elle aura été jusqu'au bout de sa tâche. Et ses gouvernements successifs, solidaires les uns des autres, unis devant la postérité, comme les générations au nom desquelles ils avaient l'honneur de parler, ils ont pris leur part de responsabilité, de labeur et de gloire. Pourquoi faut-il que la rançon soit si dure? Oh, je n'essayerai pas de dissimuler le sentiment. D'ailleurs, je sais que je suis assez le bloc politique d'essayer de dépresser ce que c'est donc de ne pas montrer franchement à quel point nous en sentons la valeur.
Du 21 au 22 juin, c'est la conférence interalliée de Boulogne. Le 25 juin 1920, de nouvelles mesures gouvernementales visent à accroître les recettes de l'État. La hausse de l'impôt général sur le revenu est décrétée. Le taux marginal passe à 50%, 2% en 1914, et il passera à 72% en 1925. Des majorations d'impôts sont prévues pour les contribuables célibataires sans enfants et pour les contribuables mariés sans enfants au bout de 2 ans de mariage. C'est aussi le remplacement de la taxe sur les paiements, qui est jugée peu rentable, par une nouvelle taxe de 1,3%, établie cette fois sur le chiffre d'affaires, la fameuse TVA, des entreprises industrielles, commerciales et financières. Ce nouvel impôt frappe en cascade toute transaction commerciale. Valentine est une chanson française légèrement grivoise et humoristique, interprétée par Maurice Chevalier en 1925. Composée par Henri Christinet, avec des paroles d'Albert Wilmets, elle fut un triomphe pour Maurice Chevalier, dont elle contribua à lancer durablement la carrière.
Ladies and gentlemen, I'm going now to sing a popular French song called Valentine. It is the story of a boy, a French boy, who, when he was merely more than a boy, was madly in love with a beautiful little French girl, you know. She was beautiful, she wasn't very intelligent, she wasn't very clever, but she had a wonderful little nose, wonderful little chin, and wonderful little feet. In fact, she had everything wonderful, you know. And after that, fate separates them. And he sees her long after, and doesn't recognize her at all, because she has changed so much, you see. Her little nose has become much bigger, her little chin has become 3 times as big, and her feet, well, her feet are terrible now, you know. It's a sort of a sad story, but what's the use of crying over it? I'm going to try to sing it with my French spirit. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Justine, je pris le même chemin. Et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Vend son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli d'effroi qu'elle a changé ma foi. Dire qu'autre quoi, elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tontontontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton.
En 1924, Maurice Chevalier n'est déjà plus un inconnu aux yeux du public. Son histoire d'amour passionné avec Mistinguette, jusqu'en 1920, et Dans la vie, faut pas s'en faire, sa première chanson à succès sortie l'année suivante, lui ont apporté une certaine notoriété. Il sent qu'il est à l'aube d'une grande carrière. Il doit désormais concrétiser. Peu après sa rencontre avec sa future épouse, Yvonne Vallée, il conclut avec Léon Volterra un contrat de 3 ans pour participer à 3 revues du Casino de Paris. Le 28 novembre 1925, la nouvelle revue de Maurice Chevalier s'intitule « Paris en fleurs ». Il partage l'affiche avec sa nouvelle compagne, Yvonne Vallée. Le public se presse en masse pour être une nouvelle fois témoin de ses amours. Lors de cette revue, Maurice Chevalier chante pour la première fois « Valentine », une chanson au texte un peu égrillard et imprégné de l'esprit café-concert. De nombreux artistes et observateurs considèrent que seul Maurice Chevalier peut chanter cette chanson tout en conservant une certaine distinction. Ainsi, pour Yves Montand, il dira plus tard, le charme de Maurice Chevalier arrivant sur scène, il avait une allure et une classe extraordinaires. Maurice a pris souvent des chansons qui étaient à la mode et qu'il imposait avec son authentique génie. Pour imposer Valentine, il fallait vraiment du génie. Il remporte un triomphe, le public se rend régulièrement au casino en 1925 pour n'écouter que cette chanson écrite et composée par Albert Wilmets et Henri Christinet. Maurice Chevalier réalise qu'avec Valentine, il est enfin devenu la première vedette française. « Je suis éberlué de voir que malgré tant de handicaps physiques, rien ne semble pouvoir m'empêcher de grimper l'échelle de la popularité. » Tout au long de sa carrière, il fera appel à de nombreuses reprises au parolier Albert Wilmets pour lui écrire des chansons à succès, telles Dédé ou Là-haut. Selon Maurice Chevalier, une amitié presque instinctive facilita l'harmonie de nos relations privées et professionnelles. Il reprend Valentine dans le premier film qu'il tourne aux États-Unis en 1928, La chanson de Paris, une comédie musicale de Richard Wallace avec Sylvia Becker. Puis, il la réinterprète à nouveau dans les deux versions, l'une américaine, l'autre française, de Folie Bergère, de Roy Del Ruth et Marcel Achard en 1935. Afin de ne pas choquer le puritanisme américain, les paroles originales « Elle avait des tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine » sont modifiées pour devenir « Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine ». Maurice Chevalier portant l'index à son nez pour indiquer ce qu'est le piton.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Henri Marius Christinet est un auteur, compositeur, éditeur français d'origine suisse, né le 27 décembre 1867 à Genève, est mort le 26 novembre 1941 à 73 ans à Nice. Avant la Première Guerre mondiale, Christinet écrit de nombreuses chansonnettes pour Harry Fraxon, Je connais une blonde, reviens, Mayol, Paulin ou encore Yvonne Printemps. Il est également chef d'orchestre à l'Européen, le musical de la place Clichy. Selon l'article de Pierre Chapelle dans Le Cornet en 1922, Christinet aurait débuté brillamment dans la pédagogie à 90 francs par mois après de fortes humanités. Albert Wilmets est un librettiste, lyriciste et scénariste français, né le 14 février 1887 à Paris dans le 17e et mort le 7 octobre 1964 à Marne-la-Coquette en Seine-et-Oise. Fils d'Édouard Albert Wilmets, courtier d'assurance, et de Jeanne-Juliette Louise de Taillandier, Albert Wilmets, né le 14 février 1887 dans le 17e arrondissement de Paris. Considéré comme un des pères de l'opérette moderne au XXe siècle, il imagine des constructions nouvelles où souffle un air de liberté au sortir de la Première Guerre mondiale. Il impose également, dès les années 20, le terme et la technique des lyrics, désignant les paroles chantées des comédies musicales imaginées après la composition, contrairement aux livrets d'opéra et d'opérette sur lesquels le compositeur adaptait jusqu'alors sa musique. Auteur de plus de 90 revues pour le théâtre et le Casino de Paris, il écrivit de nombreux sketchs et ses chansons furent extrêmement populaires. Mon homme, de la pièce homonyme, Dans la vie vaut pas s'en faire, dont on a parlé, de l'opérette Dédé, C'est une gamine charmante, de l'opérette Fifi, Sous les palétuviers de l'opérette Toi, c'est moi, Valentine, Ramona, est-ce que je te demande? Ah, si vous connaissiez ma poule, amusez-vous, Félicie aussi, chantée notamment par Fernandel, Cette petite femme-là, etc. Au total, il composa, souvent sur mesure, plus de 3000 chansons interprétées par les vedettes de l'époque.
Félicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une brosse de cloche, Félicie aussi. À fin de cette heure, la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie aussi. Je m'offris une giblotte, elle empaumait l'échalote. Félicie aussi. Une poire et des gaufrettes, devant la poire et des blettes. Félicie aussi. La maman lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie aussi. Et des draps de poils molles me chatouillaient les guivoles. Félicie aussi.
Juin 1955. Rapport de Jacques Soustelle au gouvernement Edgar Faure sur la situation en Algérie. Il préconise la création d'un fonds d'investissement pour le développement économique et social, une réforme agraire, l'irrigation et la restauration des sols, la création de secteurs d'amélioration rurale, la formation professionnelle et technique des indigènes, le développement des industries de transformation sur le littoral et de l'extraction du pétrole. Le 3 juin 1955, c'est l'autonomie interne de la Tunisie. Le 11 juin, un accident a lieu aux 24 heures du Mans. La Mercedes 300 SLR du français Pierre Levègue est projetée dans la foule et tue 82 personnes. C'est le plus important accident automobile de l'histoire. Mercedes-Benz se retire de la compétition automobile.
Je regardais sur la gauche et d'un seul coup j'ai entendu une explosion, j'ai vu une flamme, j'ai pas vu la voiture décoller, j'ai vu une flamme et j'ai entendu le monsieur qui a dit « fallait que ça » et puis on s'est effondré, j'ai cherché mon petit frère parce que je pensais tout de suite à mon petit frère et puis j'ai vu que le monsieur était allongé à côté de moi et qu'il était mort.
Jean-Paul Guittet avait 10 ans ce jour-là. Il est 18h28 et il vient de survivre au plus meurtrier des accidents du sport automobile. 82 morts. Janine Maurice avait 27 ans, elle travaillait alors à la Croix-Rouge.
Il y avait un enfant qui était tombé et le docteur qui arrivait a dit « Mais tiens, là un enfant va s'en occuper » et c'était son propre fils qui a été tué. Il venait de faire sa communion. C'est horrible, j'ai toujours eu cette vision-là sans cesse.
Le samedi 11 juin, 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955.
60 voitures et un duel entre Mercedes et Jaguar, entre Fangio et Hawthorne. C'est ce dernier qui va provoquer le drame. En voulant rentrer au stand, il coupe la route d'une Austin. La Mercedes du français Pierre Levesque ne peut l'éviter. Le pilote fera partie des victimes.
Exploser et semer la mort.
Et pourtant, la course continue. Son directeur Charles Farou décide de ne pas l'arrêter.
Je crois qu'il n'y avait que 6 ambulances. 6 ambulances et on était à plus de 200 blessés. Tu imagines que s'il avait arrêté la course, le débordement du public vers l'extérieur était terrible. Il n'y avait que 2 routes pour aller à l'hôpital du Mans. La route d'Angers et la route de Tours, c'est tout. Et s'il avait arrêté la course, ça aurait été une catastrophe.
Et la polémique sera énorme. Mais 1955 constitue aussi un vrai tournant pour la sécurité du sport automobile.
Jusqu'alors, on disait, oui, le sport automobile est dangereux, on l'assume tel qu'il est. Les pilotes disparaissaient un par un, mais ça faisait partie du sport. Et à partir de 1955, on s'est dit, on va quand même faire quelque chose.
Et le circuit sera en partie reconstruit en 1956. Aujourd'hui, Le Mans est nettement plus sûr, même si le sport auto reste une discipline dangereuse.
Du 21 juin au 1er août 1955, de violents affrontements ont lieu entre CRS et ouvriers lors des grèves des chantiers de Pennoët. Les bâtiments patronaux sont pris d'assaut par les soudeurs. Les négociations entamées après la journée du 1er août débouchent le 16 août sur la fin de la grève après que les ouvriers aient obtenu une augmentation de 22% des salaires. National 7 est une chanson de Charles Trenet composée en 1955. Cette chanson évoque cette route longue de 996 km qui relie Paris au sud de la France en passant par l'ouest de la Bourgogne, le nord de l'Auvergne, la vallée du Rhône, le massif de l'Estérel. La National 7 a symbolisé, pendant des années, la route des grands départs en vacances vers le sud.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux National 7, on est heureux National 7, on est heureux National 7.
Pour se rendre dans l'une ou l'autre des propriétés qu'il possédait près des rivages du Midi, Charles Trenet empruntait régulièrement la route nationale. C'est un matin, dans les jardins de sa propriété de Juan-les-Pins, que l'idée de cette chanson lui est venue. La chanson comprend un solo de trompette bouché, confié à Maurice André, âgé de 22 ans et issu du Conservatoire de Paris, qui deviendra par la suite l'un des trompettistes les plus réputés du XXe siècle. Cette composition de Charles Trenet est devenue le succès de l'été 1955. Une autre chanson que l'on pouvait entendre en 1955, Les Lavandières du Portugal. Les Lavandières du Portugal est une chanson française dont la musique a été composée par André Pop et les paroles ont été écrites par Roger Lucchesi en 1955. Elle a été interprétée pour la première fois par la chanteuse française Jacqueline François, mais également par d'autres interprètes, dont le chanteur d'opérette Luis Mariano.
Comme on en voit au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Setúbal. Ce ne sont vraiment pas des lavoirs, où est la femme et des volières. Il faut les entendre et les voir, rythmer leur chant dans leur patois. Quand il y aura du linge à laver, on boira de la mandalilla. Quand il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un pas du pied, ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée.
La chanson a été écrite par André Pop et Roger Lucchesi en 1955 et évoque, comme son titre l'indique, les lavandières du Portugal et plus particulièrement celle de la ville de Setúbal, située au nord de l'estuaire de Sado, non loin de Lisbonne. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission, notamment sur la plateforme Apple Podcast, en tapant le temps d'une chanson Radio Campus Paris. À très bientôt.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.